Actes des Apôtres, chapitre 19 et 20. Et bon, je suis désolé, mais c'est un peu systématique, hein, puisqu'on a prévu de faire 3 fois par mois, vous savez, 2 fois ou 3 fois? 2 fois, ça dépend. Des fois c'est deux, des fois c'est trois. 2 fois ou 3 fois par mois, on fait un enseignement systématique, donc on couvre le livre des Actes. Donc on n'est pas loin de la fin là. Bon, c'est intéressant, mais c'est de l'enseignement systématique, c'est pas, allez, je vais vous exhorter. On y va, on y croit, hein? Ça va être un peu différent parce que c'est un enseignement, quoi. Mais je vais quand même essayer de vous encourager au travers de ce passage. Ça se trouve dans Acte 19 et nous allons lire juste les versets 23 à 40. Acte 19, versets 23 à 40. À ce moment-là, survinrent des troubles assez graves au sujet de la voix du Seigneur. Un orfèvre du nom de Démétrius fabriquait des temples d'Artémis en argent et procurait aux artisans un profit considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: Vous tous, vous savez que dont notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul, l'apôtre Paul, hein, a persuadé et détourné une assez grande foule en disant que les dieux faits par la main des hommes ne sont pas des dieux. Alors cela risque non seulement de jeter le discrédit sur notre profession, mais encore de réduire à rien le temple de la grande déesse Artémis et même de dépouiller de son prestige celle à qui toute l'Asie et le monde entier rendent un culte. À ces paroles, remplies de fureur, ils se mirent à crier: Grande est l'Artémis des Éphésiens. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent d'un commun accord au théâtre et entraînèrent avec eux. Alors, le théâtre, bon, on reviendra après, ils ne vont pas au théâtre, hein, ils ne vont pas au ciné. Le théâtre, c'est autre chose, hein. Et entraînèrent avec eux les Macédoniens, Gaius et Aristarque, compagnons de voyage de Paul. Et Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Même quelques-uns des Asiarques, qui étaient ses amis, lui envoyèrent des messagers pour l'exhorter à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car la confusion régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient même pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre faisait signe de la main, il voulait se défendre devant le peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous crièrent d'une seule voix pendant près de 2 heures: Grande est la Diane des Éphésiens. Cependant, le secrétaire calma la foule et dit: Éphésiens, quel est l'homme qui ne sait pas que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Artémis et de sa statue tombée du ciel? Puisque cela est incontestable, vous devez vous tenir calme et ne rien faire avec précipitation. Car vous avez amené ces hommes qui ne sont ni sacrilèges ni blasphémateurs envers notre déesse. Si donc Démétrius et les artisans qui sont avec lui ont un grief contre quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls qu'ils portent plainte. Et si vous avez d'autres réclamations, cela se réglera dans l'Assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de rendre compte de cet aggroupement. Cela dit, il congédia l'Assemblée. Alors on est à la fin du troisième voyage de l'apôtre Paul. L'apôtre reste seul à Éphèse avec quelques compagnons, des disciples. Ses collaborateurs, Timothée et Eraste, sont partis en Macédoine. Le verset 21, que nous n'avons pas lu, donne un petit peu le ton de ce passage et de tout le reste finalement du livre des Actes. Je le cite: Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'aurai été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Alors l'auteur du livre des Actes, qui est Luc, ne mentionne pas l'Espagne. Parce qu'un de ses buts en écrivant les Actes était de relater finalement la propagation de l'Évangile jusqu'à l'arrivée de Paul à Rome, le centre du monde romain. Donc Jérusalem et Rome sont les points d'intérêt de l'Évangile de Luc. et des Actes. L'évangile de Luc nous porte vers Jérusalem et les Actes de Jérusalem à Rome. Paul a maintenant Rome en vue, en passant par Jérusalem avec le but ultime de se rendre en Espagne. Dans Romains 1, il nous est dit ainsi, « J'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. » Quelques chapitres plus loin, dans Romains au chapitre 15, versets 22 à 24, il dit « C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous, mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. » Bon, on ne peut pas affirmer de façon catégorique que Paul se soit rendu en Espagne, mais il y a quelques éléments qui le suggèrent. Clément de Rome, par exemple, le canon de Muratori, c'est un fragment, on appelle aussi ça le fragment de Muratori, qui est en fait le plus ancien canon commun, connu, ou liste des livres du Nouveau Testament. Et ce canon de Muratori, ou le fragment de Muratori, ne se compose pas d'une simple liste des écritures, des livres bibliques, qui sont arrêtés dans le canon, hein, dans ce que nous avons, ce que nous possédons, mais il y a aussi comme une enquête, en même temps, qui fournit en même temps des informations historiques concernant chacun des livres du Nouveau Testament. Bon, le voyage de Paul en Espagne est souligné dans ce canon-là, dans ce fragment. Selon les paroles de Paul, il avait achevé son œuvre en Orient et son regard donc se tournait vers l'Espagne, considérée comme la limite du monde. Et après son retour à Rome, il aurait fait voile à partir d'Éphèse, se serait rendu à Massilia, à Marseille, pour aboutir ensuite en Espagne. Le témoin le plus ancien de cette mission en Espagne est Clément de Rome, quatrième pape, de 89 à 97, il a été pape, qui aurait vraisemblablement connu Saint Paul. Il écrit à la communauté de Corinthe que Paul s'était aventuré jusqu'aux confins de l'Occident, ce qui d'un point de vue romain ne pouvait désigner que l'Espagne. Pour les Romains, les confins de l'Occident, c'était l'Espagne. Alors, est-il allé en Espagne? N'y est-il pas allé? Marseille? Stade Vélodrome? Pas savoir. En tout cas, en Espagne, les traditions locales au sujet du voyage de Paul ne manquent pas, notamment à Écija, à Lécusa et avant tout à Tortosa, où Paul est censé avoir ordonné Rufus évêque du lieu. Cependant, d'un point de vue strictement biblique, tout ça reste un peu mystérieux. Hein, on ne sait pas trop. Mais quand même quelques éléments qui... voilà. Alors, il y a un discours dans ce texte, le discours de Démétrius, qui expose finalement la situation, versets 23 à 28. Il y a une émeute. Une émeute qui va déboucher sur la prospérité des orfèvres d'Éphèse. Vous savez, la profession d'orfèvre est non seulement prestigieuse à cette époque-là, et peut-être encore aujourd'hui, mais là, à cette époque-là, et dans la ville d'Éphèse, était énormément lucrative. Il faut dire ce qui est. Il y a du boulot, il y a de l'argent à gagner, et que des orfèvres soient religieux, prêtres du temple, ou mages, ou on ne sait trop quoi, en tout cas, aux profanes même, hein, parce qu'il y a des marchands de souvenirs, des restaurateurs aussi autour de ça, il y a des banquiers, il y a des hôteliers, il y a des commerçants, il y a des dessinateurs, il y a des sculpteurs, il y a des ciseleurs, il y a toutes ces corps de métier qui sont au service finalement de ces orfèvres qui fabriquent ces objets, entre guillemets, spirituels, pour rendre un culte à Artémis et à Diane d'Éphèse. Dans le livre des Actes, il y a deux incidents où nous voyons clairement des païens s'opposer à Paul, dans le passage d'aujourd'hui et dans le cas de la devineresse de Philippe, dans Acte 16. Dans les deux cas, l'opposition est due à une question d'argent. On ne peut pas ne pas penser, quand on voit ça, on ne peut pas ne pas penser aussi à cet épisode où Jésus rentre dans le temple et il balaye tout, peut-être la seule fois où on voit Jésus, entre guillemets, énervé, quoi. C'est peut-être le seul endroit où on voit Jésus pas sortir de ses gonds, mais oui, quand même, hein. C'est le seul moment, et c'est encore au travers de cette question d'argent et de spiritualité, entre guillemets. Alors, il faut savoir qu'en Asie mineure, il y avait deux déesses nommées Diane, L'une adorée dans la culture grecque du nom d'Artémis, déesse vierge de la chasse, et la seconde était la Diane des Éphésiens, une déesse de fertilité, avec plusieurs saints, pas des saints, des saints. Et donc, cette déesse, cette statue originale serait en fait une météorite ayant la forme d'une femme dotée de plusieurs saints. Et elle a été sculptée, etc. Et voilà, ça serait une météorite. D'ailleurs, au verset 35, il est dit « Cependant, le secrétaire ayant apaisé la foule dit « Homme éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel ?» Tombé du ciel. C'est intéressant. Beaucoup de pèlerins viennent de loin pour honorer donc cette grande déesse. Et si la vente de tous ces bibelots, statuettes, amulettes, talismans, tous ces trucs-là, quoi, des temples miniatures, venaient à s'arrêter, ben, automatiquement, les pèlerinages aussi, ça serait. L'hôtellerie ferait faillite et une grande partie de la ville se retrouverait au chômage. C'est les conséquences. Hein. Donc, Paul a indirectement annoncé ce désastre. Indirectement. Démétrius, un orfèvre, a bien compris ça. Il rassemble ses collègues artisans. Et c'est vrai que la prédication du Dieu unique au contact des dieux a des conséquences. Au contact des divinités a des conséquences. La prédication de l'évangile a des conséquences sur la société dans laquelle on vit. Et parfois des conséquences énormes. Alors ces divinités faites de la main des hommes ne sont pas des dieux et elles ont perverti une foule considérable et au contact du Dieu unique, l'ambiance idolâtre et superstitieuse est en quelque sorte démasqué. La lumière vient éclairer tout ça. Et aux yeux de Paul, il n'existe qu'un artisan, celui qui a fait le ciel et la terre, celui qui accomplit ses desseins, et qui vient confisquer aux fabricants de mensonges leur profit. Que fait l'orfèvre religieux? Il galvanise son monde, hein, il manipule, il simplifie, il mélange un petit peu les registres entre la culture et la religion. Son souci est avant tout économique. Il se sert de la spiritualité hein, pour faire fonctionner son entreprise. D'ailleurs, le mot entreprise est bien nommé dans ce texte. Hein. La spiritualité de la ville d'Éphèse tourne autour de l'économie, de la religion, le pèlerinage, le prestige. Tout y est jusqu'aux oripeaux, finalement, du patriotisme religieux. Il y a un certain patriotisme là. Nous, à Éphèse, nous, c'est connu dans le monde entier, nous. L'affrontement est inévitable. Il y a des cris, il y a de l'agitation, il y a un élan d'agressivité collective, il y a de la confusion. Prise en otage de Gaius et Aristimarque, qui sont entraînés au théâtre d'Éphèse. Alors, comme je disais, à ce théâtre, c'est une grande place, en fait, de la ville, qui pouvait contenir à peu près 25 000 personnes. Vous voyez, c'est un endroit où on débattait, certainement, où on jugeait aussi, où il y avait un tribunal. Donc il y a un affrontement, et on a ça entre les versets 29 et 34. Il est intéressant de les relire. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent, quelques-uns même des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Moi je trouve que ça me parle, parce que je trouve que c'est très bien qu'il y ait des personnes, peut-être sages, qui nous empêchent parfois de faire des bêtises. Je suis personnellement reconnaissant que le Seigneur a souvent placé sur ma route des frères et sœurs qui m'ont raisonné, qui m'ont encouragé à réfléchir avant d'agir, qui ont su calmer aussi mes ardeurs, mon enthousiasme, tout en m'encourageant, ce qui n'est pas... Hein, tu vois, faut gérer là. Faut garder le punch des gens. Mais en même temps, quand tu vois qu'ils vont droit dans le mur, tu leur dis, bon, peut-être que. Mais il ne faut pas leur couper les pattes, comme on dit. Puis après, ils n'ont plus envie de rien faire. Mais c'est précieux. En tout cas, Paul voulait se présenter devant le peuple pour s'expliquer et pour une fois de plus annoncer l'évangile. Et ça se comprend. C'est un évangéliste. Et parmi ceux qui dissuadent Paul d'aller défendre l'évangile, il y a des chrétiens. J'appuie bien mes mots. Hein, parmi ceux qui dissuadent Paul d'aller annoncer l'évangile. Nous, on dirait, ah mais non, il faut y aller. Hein. Ah non, mais c'est bon, Paul, vas-y, on prie pour toi. Allez, vas-y. Vas-y, on va faire une cellule de prière pendant que tu vas parler. Eh non, c'est bizarre, hein. Ça se passe pas comme ça, là. C'est étonnant. Et il y a quelques-uns de ses amis, les Asiarques. En fait, ces derniers sont les officiers de la province, littéralement les chefs de l'Asie, quoi, les Asiarques. Ils étaient en charge du bien-être politique et religieux de la communauté. Ils étaient en bon terme avec Rome et par conséquent conscients de la bonne réputation du christianisme auprès du gouvernement, parce que c'est la seule chose qui intéressait. Dans les versets 32 à 34, on remarque tout de suite que Luc avait quand même le sens de l'humour, parce qu'il dit « la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis ». J'espère que ce matin on sait pourquoi on s'est réunis, mais là en tout cas ils ne savaient pas, quoi. C'est quand même c'est rigolo. Les gens se réunissent, ils ne savent même pas pourquoi. Et c'est vrai que parfois on peut être pris dans des débats, dans des discussions, puis il y a des gens qui s'invitent, ils ne savent même pas de quoi on est en train de parler, et ils donnent leur avis, tu vois. C'est là qu'ils disent, mais c'est pas de ça qu'on est en train de parler là, mon gars. Et ouais, il y en a qui ne savaient pas pourquoi ils étaient là, mais en tout cas, ils ont vu que ça gueulait, que ça criait, qu'il y avait, tu vois, et puis il y a peut-être des gens qui étaient un peu chauds là, ils ont dit, allez, on y va, ouais. Bref. Les juifs sont monothéistes, ils s'opposent aux idoles, ils poussent alors Alexandre en avant pour publier un démenti, ça vient pas d'eux, nous on n'y est pour rien. Surtout pas, vous ne nous mettez pas ça sur le dos. Et du coup, la foule refuse d'écouter un juif, et pendant deux heures, je ne sais pas si on réalise, pendant 2 heures, ils ont crié « Grande et la Diane des Éphésiens ». Je ne sais pas si on arrive à réaliser, on doit prendre ça au sens littéral, c'est-à-dire que pendant 2 heures de temps, t'as des gens qui étaient en train de crier « Grande et la Diane des Éphésiens » pour te dire que le problème, quand même, il était, c'était costaud, quoi. C'était pas simple, hein. Résolution du conflit, dans le long discours du greffier, au verset 35 à 40, le secrétaire arrive, il est le principal administrateur de la ville, le maire, en quelque sorte, hein. Et lorsqu'il arrive, tout le monde se tait, tout le monde écoute. « Homme éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel, que j'ai cité tout à l'heure, bien sûr. » Mais cette phrase, elle est quand même un peu en réponse à l'affirmation de l'apôtre Paul, citée par Démétrius au verset 26. Parce que il dit non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. À part, dit le secrétaire, le greffier, si ces derniers sont tombés du ciel. C'est une manière d'aller à l'encontre de ce qui a été dit. Donc il prend soin de préciser que tout ce qui tourne autour de la déesse Diane est tombé du ciel. Et donc il en profite pour rappeler aussi les méthodes légales pour porter plainte, c'est-à-dire des jours d'audience, le proconsul, l'assemblée générale, etc. Et l'assemblée qui est en train de se tenir là n'est pas légale. Elle n'a pas lieu d'être. D'un point de vue légal, elle n'a pas lieu d'être. Donc il le rappelle. Du coup, au verset 40 et 41, on voit apparaître une mise en garde contre les implications politiques d'un tel rassemblement. Comment expliquer, en fait, à Rome ce qui est en train de se passer? Parce que Rome accepte beaucoup de choses, mais ce que veut Rome, c'est la tranquillité, l'apaisement. Et ça me rappelle quelque chose, l'apaisement. Et donc, il serait certainement privé de certaines libertés, hein, du coup. Et du coup, Paul se retrouve innocenté de toute action, aussi bien religieuse que politique, hein, en quelque sorte. Pendant ce séjour à Éphèse, il va écrire la première lettre aux Corinthiens. Le chapitre 20 fait référence à son départ en Macédoine. Luc va couvrir brièvement une portion de son troisième voyage missionnaire. La deuxième lettre aux Corinthiens nous donne d'autres informations à propos de l'arrêt de Paul à Troas, parce qu'il évangélise. Alors, arrive un peu au bout, hein. Ma question par rapport au texte d'aujourd'hui, parce que c'est pas évident, hein, comment avoir... Par rapport à ce qu'on vient de lire, par rapport à quelque chose qui s'est passé quand même il y a assez longtemps, qu'est-ce qu'on peut en retirer pour nous? Que m'enseigne ce texte pour aujourd'hui? Alors, j'aimerais bien vous entendre à ce sujet, mais bon, l'évangélisation ne soulève pas que des problèmes religieux, elle déclenche aussi des conflits d'intérêts, de pouvoir, des conflits sociaux aussi, parfois même culturels, qui peuvent avoir des répercussions économiques. Annoncer l'évangile suscite des débats de société. C'est vrai que nous n'avons pas une foi culturelle, entre guillemets, quoique elle l'est devenue, ou elle l'a peut-être toujours été, mais il y a une partie de notre foi qui l'est. Mais le fondement même de la foi, de l'évangile, hein, ce qui sauve, hein, ben, ça nous enclenche aussi à réfléchir sur le vivre ensemble, les choses d'aujourd'hui, hein, la laïcité, la famille, le mariage, l'éducation, la sexualité. On pourrait aller au-delà en disant ben, l'exploitation du gaz de schiste, le matérialisme, la mondialisation, la condition des enfants dans le monde, de la femme, l'œcuménisme, jusqu'où on place le curseur à quel endroit?
Et
nous vivons dans une société de consommation où prévalent quoi? Le confort et le profit. Le confort s'introduit dans la spiritualité. Le christianisme qui se voit offrir à ses membres tout un panel de services qui vont jusqu'à l'opticien, le vêtement, la mission, le volontourisme déguisé pour se faire du bien, se sentir au service, l'agence immobilière, les assurances, l'étude de marché, les livres, les disques, les prestations de services, site internet, com, les réunions organisées à l'identique de finalement ce qui se fait un peu dans la société. Il y a quelques semaines, je discutais avec Yann, il m'a rendu attentif au fait que finalement, et c'est vrai, c'est tout à fait juste, que de la même manière que l'Église du IIIe siècle a adopté, s'est calquée à la société environnante en devenant romaine, l'Église, au sens plus large, le christianisme du XXIe siècle, se calquerait-il aussi sur la société environnante, entre parenthèses occidentale. Il y a des questions à se poser. Comment faire le tri entre ce qui est vraiment conduit par l'esprit et ce qui est, on va dire, vulgairement conduit par le monde, ou par la mode, ou par le goût du jour, ou par la société qui nous environne? Quelle est notre réponse aussi au grand thème de société, aux grandes questions de la société? J'ai une sœur qui habite aux États-Unis, elle m'a envoyé un mail avec un chanteur, j'ai essayé de le trouver, elle n'en a pas trouvé. C'est un gars qui porte une longue barbe, mais alors je te dis pas, je sais plus comment il s'appelle, le mec, mais vraiment, il est vraiment bon, quoi. Franchement, il est très bon. J'ai vu ça avec la foule, les lumières, les gens, ils sont à fond. Moi, ça me pose question. J'aime, hein. Ah, j'irai à un concert, il n'y a pas de souci. J'irai m'éclater un concert, ça me plaît, la musique qu'il fait, son look, son style, ses chants, tout me plaît. Mais je me vois immergé dans un truc qu'on appelle spirituel. On est dans la louange. On a mis le niveau là, excusez-nous, hein, ce matin, on avait un niveau un peu plus bas. Moi, j'apprécie aussi, hein, mais on a mis le niveau là-haut. Et là, on s'éclate. Et là, Dieu, il est en communion avec moi et je suis en communion avec lui. Et mon Jésus, il me fait du bien à moi. Il y a 2 jours, j'étais avec mon ami Marc à la TUC, où on va le rejoindre l'année prochaine, hein, qui est le responsable de l'organisme Renaissance Autochtone. On parlait tous les deux. Et puis, comme on avait une discussion sur le salut et l'assurance du salut, on en a parlé. Puis il me dit, dis-moi, s'il n'y avait pas d'éternité, s'il n'y avait pas de ciel ou d'enfer, est-ce que tu serais chrétien? Alors, lui qui est à moitié autochtone, je ne comprenais pas sa question, parce que pour moi, c'est tellement évident. Bien sûr, oui, mais quand même, il y a le ciel, il y a l'enfer. Oui, mais quand même, il y a avec Dieu et sans Dieu. Ah oui, mais il y a le retour du Seigneur. Ah oui, mais il y a tout l'avenir. Oui, mais est-ce que tu vivrais en tant que chrétien? Est-ce que tu serais chrétien? Oui, certainement. Et toi, tu le serais? C'est une vraie question. Et c'est pas n'importe quelle question. Parce que être chrétien, c'est être aujourd'hui chrétien. C'est de vivre l'amour de Dieu aujourd'hui et maintenant. Ici, dans ma vie de tous les jours. Et pas parce que je vais au ciel. Et pas demain. Et pas après-demain. Pas dans un mois, mais aujourd'hui. Et je reconnais un petit peu la pensée des autochtones, parce qu'ils vivent au jour le jour. C'est des gens qui ont beaucoup de mal à prévoir, ils ont beaucoup de mal à faire des agendas, parce que pour eux, comme dirait le Seigneur, à chaque jour suffit sa peine. Et je trouve cette façon de voir la vie avec Dieu très intéressante. Mais bon, c'était une parenthèse. Comment, nous, en tant que chrétiens, nous pouvons répondre à des problèmes de société? Parce que ça crée des difficultés. Tu vas rentrer dans des débats, tu vas poser quelque chose. En ce moment, ça peut être sur l'islam, ça peut être sur la laïcité, ça peut être sur... comment tu t'en sors là-dedans? Quelle est ma spiritualité? Je le redis encore une fois. Est-ce qu'elle est centrée? On dit qu'elle est centrée sur Christ, mais souvent elle est centrée sur nous-mêmes. Parce que mon Jésus à moi, il me fait du bien. Et je me régale. Et je suis là le matin et je prie pour moi, pour mon église, pour ma famille. Mais c'est toujours moi qui est en question. Et je pense qu'on refera ce qu'on avait fait au week-end d'église, de se mettre à l'écoute de Dieu pour l'autre. Parce que je trouve que c'est bien ce qu'on a fait. Et c'est pas facile. Parce que de me mettre à l'écoute de Dieu pour toi, ça me demande un effort. Me mettre à l'écoute de Dieu pour moi-même, ça va tout seul. Je ferme les yeux, je pense à moi, j'ai mal au dos, Ouais, j'ai mal au dos, Seigneur, fais quelque chose. Tu vois? Et du coup, me mettre à l'écoute de Dieu pour toi, et toi à l'écoute de Dieu pour moi, ça change tout notre rapport aux autres. Comment, de quelle mesure ce texte-là me pousse à réfléchir sur ces choses-là, sur ma vie, sur ma façon de vivre ma foi? Juste un petit schéma que j'ai fait, qui est, bon, il est à côté sans lettre, mais c'est intéressant de voir ça. Un jour, on le fera ça. J'en ai plein comme ça. Qui nous permettent de voir un petit peu comment dans la société, parce que finalement, l'évangile, il chevauche la société dans laquelle on est. En fait, le point de contact, il se fait au centre, vous voyez? Au centre où c'est rose clair. Et notre façon de vivre, ça c'est bien sûr, ça c'est les valeurs que nous avons. Hein, d'accord? Et ça c'est les valeurs de la société. Ou de la religion. Tu vois? Et dans nos valeurs, comparé à celles de la société, qui vit par le fruit de la chair, bon, je ne dis pas que le problème, c'est que nous, quand même, ça nous aide à réfléchir à l'identité des choses. Le fruit de l'esprit est contraire au fruit de la chair. De quelle manière, moi, je fais vivre l'esprit sur les autres? L'apprentissage de l'amour, oh, dans la société, on apprend les pauvres, et parfois même dans l'église. Dans la vie chrétienne, la réussite, elle se fait par le bas, pas par le haut. J'étais à la pastorale, un des pasteurs, il a dit, ben, en expliquant, je ne dirais pas qui c'est, mais en expliquant le fonctionnement de l'église locale, parce qu'il y avait le pasteur des gens du voyage, vous savez, des gitans, quoi, il était là, il demandait comment nous on fonctionnait. Puis il y a un des pasteurs qui a dit, ah ben nous, on fonctionne, en fait, il y a le pasteur, puis après il y a les diacres, enfin, il y a le conseil d'anciens, hein, et après il y a les diacres, et après il y a les membres. J'ai dit, dis-moi, tu te trompes pas un peu là? Il me dit, c'est-à-dire? J'ai dit, ben moi, je verrais plutôt les membres, et puis après, les diacres, et puis après, etc. C'est-à-dire que la réussite, elle est par le bas. C'est-à-dire, on tient par le bas. On est au service des autres. Mais on est dans un système qui est totalement hiérarchisé. Parce que, on adopte ce qui se fait aussi dans la société. La grâce recouvre la loi. La loi recouvre la grâce. La grâce. Le culte, c'est pas ce qu'on a vécu ce matin, hein, le culte. Hein. On va au culte, mais c'est pas le culte. Hein. Le culte, c'est autre chose. Hein. Romains 12, 3. 3 premiers versets, vous verrez ce que c'est le culte. Mais le culte, c'est pas ça. Ça, à la limite, on est presque au rituel. Si on réfléchit pas, si on fait pas gaffe, on est dans le rituel. On est dans le rituel. Le temple, c'est moi. Le temple, c'est le bâtiment. Tu vas où? Tu vas à l'église. Ah bon? Ben non, le temple, c'est moi. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. La mission passe avant la tradition. Ah là là. Eh oui. Malheureusement, parfois, la tradition passe avant la mission. La mission passe avant la structure. Eh oui. La structure de l'Église, c'est intéressant. C'est bien d'organiser les choses, d'avoir un planning jusqu'en 2025, alors que le Seigneur sera revenu avant. C'est bien. Mais ce qui est important, c'est la mission. Quel est notre rôle, nous, aujourd'hui, ici, maintenant, là, tout de suite? Et puis, l'autre est plus important que moi. Eh ouais. Je suis plus important que l'autre. Ça, c'est dans la société. Je suis tellement plus important. Je sers Jésus ou je sers l'organisation? Je fais des disciples ou je fais des adhérents? Je fais des fidèles à Jésus ou je fais des fidèles au bâtiment? Vous voyez, la société des hommes et la société de Dieu. Il y aurait encore plein de choses à dire comme ça. La confiance, la méfiance. Vous voyez, la confiance, la méfiance. Dans notre monde, on est méfiant. Nos valeurs sont la confiance, la paix, l'inimité. Vous voyez, on pourrait réfléchir comment faire chevaucher notre réalité sur la réalité des autres. Parfois, ça va créer des émeutes. C'est sûr, hein. Quand tu vas dire aux gens de s'aimer alors qu'ils sont en train de se taper dessus, peut-être qu'on ne pourrait pas discuter pour voir si vous ne pourriez pas apprécier l'un chez l'autre quelque chose que vous... Non? C'est pas possible? Ben ça crée des tensions parce que tu demandes à quelqu'un de regarder l'autre avec un regard bienveillant. Waouh! Le gars, il est en colère après l'autre. Il a envie de le tuer, quoi. Il a de la haine. Toi, t'arrives, tu lui dis ça. Ou en tout cas, même si tu lui dis pas, tu vis autre chose. On va prier. Je pense que ce texte a des choses à nous apprendre sur notre façon de vivre l'évangile, mais en même temps, sur la façon dont c'est intercepté aussi dans la société dans laquelle on vit. Et il ne faut pas se leurrer. Avec la montée du radicalisme, on va certainement perdre beaucoup de liberté. Parce que On va les enlever d'un côté, mais on va nous en enlever aussi à nous. C'est logique. On va être atteint par ce qui se passe. La religion, ça fatigue les gens. Ils en sont écœurés. Parce que ça fait des dégâts. Et c'est vrai que ça fait des dégâts. Mais pas uniquement en posant des bombes. Ça fait des dégâts en nous-mêmes, dans notre vie. Parce qu'on devient religieux et parce qu'on ne vit pas aujourd'hui et maintenant ce que nous sommes. Je prie. Seigneur, merci pour la Bible. Merci pour ces textes qui nous rappellent combien tu... Ta vision, elle est tellement décalée à la mienne. J'ai tellement du mal à regarder le monde comme toi tu le vois. Même ma vision de toi est souvent décalée. Seigneur, je te demande pardon. Je te prie pour mes frères et sœurs ce matin. Donne-leur de pouvoir réaliser, que nous puissions réaliser, nous ensemble, en tant que communauté aussi, quel est notre rôle, la façon de nous positionner devant des problèmes de société, devant les soucis des gens qui nous entourent, devant nos voisins, devant nos amis, entre nous aussi dans la communion fraternelle. Donne-nous de vivre selon ton esprit, selon tes valeurs, selon ce que tu es, selon ce que tu veux, ce que tu représentes. Donne-nous un attachement encore plus fort à ta personne. Rends-nous dépendants de toi. Donne-nous de réfléchir sur notre condition. Donne-nous d'être apaisants aussi au milieu des discours de la société actuelle environnante, qui est tendue, qui est crispée. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta compassion, ta patience envers nous. Pardon pour toutes les fois où nous vivons un rituel au lieu de vivre un culte. Pardon pour toutes les fois où nous regardons en nous-mêmes au lieu de regarder à toi et aux autres. Et merci encore, parce que tu es patient envers nous, mais Seigneur, ce que tu as commencé en nous, tu vas le terminer. Rends-nous simplement attentifs à ton action dans nos vies. Amen.